Non, c'est que le cinéma mis à cœur. J'ai écrit sur l'envoi sur la toile. C'est le thème sur basé sur Jean 5, verset 17. Le titre, c'est Marche dans le prophétique. Marche dans le prophétique. Un sujet un peu difficile parce que ça me concerne, ça concerne tout le monde. Et quand je parle de prophétique, en fait, c'est dans l'Ancien Testament, on parle en fait des prophètes, bien sûr qu'ils opéraient avec des dons prophétiques. Et dans le Nouveau Testament, on parle tous des prophètes, mais maintenant on parle aussi le don de prophétie. Et dans le prophétique, il y a plusieurs dons. On va se focaliser sur le don de prophétie. Et en fait, Paul dit, en fait, si on cherche les dons, si on aspire les dons, on aspire aux dons. Le don qu'on cherche le plus, c'est la prophétie parce que c'est pour exhorter d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la prophétie, en fait? Donc, en fait, c'est... À l'Ancien Testament, un prophète est une personne qui parlait pour le Seigneur. Donc, le Seigneur avec une parole pour relâcher sur le peuple, donner une direction divine au peuple ou au roi, et s'adresser pas à tout le monde. Donc, généralement, il s'adressait au prophète. Donc, en fait, le prophète, une de ses fonctions, c'était d'écouter, en fait, ce que le Seigneur dit et de relâcher cela soit à la population ou soit au roi. C'est pour ça que vous allez voir le thème « Ainsi dit l'Éternel, ainsi par l'Éternel. » Il communiquait la vision de Dieu pour la nation, le plan de Dieu pour la nation. Mais il avait cette intimité, cette relation avec le Seigneur. Vous vous rappelez du prophète Samuel, qu'il était encore enfant, il a commencé à écouter la voix de Dieu dès son bas âge. Alors, c'était l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament. Donc, il y a toujours ce don. Et en fait, le don de prophétie aussi, c'est en fait, c'est de capter ce que le Seigneur est en train de dire par rapport à une personne, la situation d'une personne. Ça peut être par rapport à un événement, ça peut être par rapport à une ville ou une nation, et de relâcher cela, que ce soit pour exhorter, que ce soit aussi pour encourager. Donc, on doit écouter et on doit relâcher. Et aussi une grâce. Il y a la grâce d'écouter ce que le Seigneur entre nous dit. Et aussi la grâce de relâcher cela. Ou bien, quand on parle d'écouter, c'est aussi de voir. Voir ce que le Seigneur est en train de faire. Parce qu'il y a plusieurs manières donc que le Seigneur va communiquer avec vous. Ça peut être par des paroles. Ça peut être par des images, par des visions. On voit ça dans l'Ancien Testament aussi. Il y avait des visions. Et maintenant, pour relâcher cela, ça demande maintenant que vous interprétez ce que vous avez vu. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de temps, vous allez voir des prophètes ou des personnes, ils reçoivent des visions de Dieu, mais ils doivent interpréter. Souvent, dans l'interprétation, pour relâcher ce qu'ils voient dans le spirituel, ils vont faire des erreurs. C'est pour ça qu'il y a aussi une grâce pour en fait, interpréter ce qu'ils ont vu. Parce que c'est le Seigneur qui relâche ses paroles et ses visions. Ça dépend de l'intimité avec la personne. Souvent, c'est direct. Souvent, ça demande l'interprétation. Et aussi, même pour relâcher cela, il y a aussi une manière de le faire. Parce que ça sera pour exhorter, à ça pour encourager, à ça pour soulever la personne. Donc, souvent, ça peut être des warnings. C'est-à-dire que pour prévenir une personne, il y a une manière de relâcher cela. Donc, quand on dit de marcher, d'avoir cette marche dans le prophétique, en fait, c'est-à-dire, c'est d'être à l'oreille du Seigneur, c'est d'être disposé, prédisposé pour savoir en fait ce que le Seigneur est en train de dire, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre église, que ce soit dans votre nation. Si vous allez dans l'Ancien Testament, avoir un prophète était tellement important parce que quand une nation, ou bien quand vous allez voir un royaume, n'avait pas de prophète, il faisait des erreurs et ce qui faisait que le roi recevait la punition parce qu'il marchait dans les mauvaises directions. Vous voyez bien, King, le roi Saul, il y avait un prophète Samuel, mais il n'écoutait pas ce que le prophète disait. Il n'était pas connecté avec le prophète. Il a désobéi au prophète et Dieu a arraché sa royauté. Mais pourtant, David, il était en fait, il avait cette communion, il avait cette bonne relation avec le prophète. Il était sensible à ce que Dieu disait. Et lui aussi, il avait aussi ses relations avec le Seigneur. Donc la parole de Dieu nous conduit, mais aussi qu'on est dans le prophétique, Dieu communique aussi avec nous. Ça, c'est aussi important. Quel est ce que Dieu est en train de dire présentement dans votre vie? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Où est-ce qu'il est en train de dire par rapport... Qu'est-ce qu'il est en train de dire par rapport à cette situation, notre situation? Et quand je dis marcher, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire une seule fois par mois. On doit faire des rêves une fois par mois et c'est là qu'on voit la face de Dieu. Donc ça doit être constant, ça doit être une marche. C'est-à-dire qu'un pas, un pas, un pas, on doit avoir cette relation avec le Seigneur pour savoir ce qui se passe. Parce que nous vivons, nous avons des situations, nous avons des épreuves, les choses se passent dans notre vie. Donc il nous faut cette connexion avec le Seigneur. Et la Bible dit en fait que ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous conduire. Le Saint-Esprit, la Bible dit aussi que, il disait ça en prière, ce que Jésus-Christ a dit, que quand il va parler, le Saint-Esprit va prendre ce qu'il va dire pour nous révéler. Donc, on doit avoir cette communion avec le Saint-Esprit parce qu'il va chercher à révéler ce que Jésus-Christ est en train de dire. Parce qu'il n'est pas là pour se glorifier, la Bible le dit, il est là pour glorifier Jésus-Christ. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que le Saint-Esprit a toutes les choses à dire? Ou est-ce que Jésus-Christ a toutes les choses à dire? Donc ça veut dire qu'on va dans la présence du Seigneur. Si on cherche vraiment le cœur de Dieu, il a des choses à dire. Il veut causer avec nous. Il veut bavarder avec nous, même dans les détails. Il est intéressé. Même ce que vous voulez porter aujourd'hui, il est intéressé par rapport à cela. Si vous l'invitez, vous demandez, souvent on pense que ces petites choses, on n'a pas, comme Jésus-Christ est roi, comme le Seigneur, on ne veut pas trop le déranger avec ces petites choses. On veut juste demander les grandes choses. Mais quand c'est petit, quand c'est moins, pour en dire, on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Il est peut-être occupé. Il n'a pas, on ne peut pas le déranger avec cela. Mais, c'est vrai qu'il est roi, c'est vrai qu'il est seigneur, mais il est aussi l'époux. Nous sommes l'épouse de Christ. Et quand vous êtes marié à quelqu'un, vous allez dans les détails. Si vous êtes marié, votre conjoint vous demande ce que, par rapport, vous posez des questions par rapport à l'habit, par rapport aux petites choses. C'est de la même manière. Donc, Dieu vous aussi, qu'on l'invite dans ces détails, même ce qu'on va porter. Donc, il y a toujours des choses à parler avec le Seigneur. Donc, le Seigneur a toujours des choses à nous révéler. Ça dépend juste de notre disponibilité. Est-ce qu'on se dispose pour savoir ce que le Seigneur veut nous dire? Souvent, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, 30 minutes, une heure de temps, et directement on quitte. Donc, on n'attend même pas que le Seigneur réponde. Pourtant, c'est un dialogue, c'est pas juste une seule direction. C'est qui monte doit descendre. Il faut aussi garder ce temps pour écouter, en fait, ce que le Seigneur va dire. Ça va de deux sens. C'est une communication et il veut nous révéler cela. Mais la majorité du temps, on le fait juste parce qu'on veut le faire. Parce qu'on veut juste se coucher et on va avancer. Mais si on se met dans une position, on dit que le Seigneur veut passer du temps avec toi. Vous allez voir comment il va nous conduire. Ça peut être de plusieurs manières. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire dans votre vie maintenant? Où est-ce qu'il vous conduit? Quelles sont les directions qu'il est en train de vous donner? C'est très important. On va prendre l'exemple, l'Ancien Testament, d'une personne qui n'avait pas vraiment pris avantage de cela. Et à cause de cela, il a souffert. Et souvent, il y a des souffrances qui sont inutiles. Souvent, il y a certaines informations, en fait. Il faut aussi savoir qu'il y a certaines informations qui ne sont pas disponibles pour vous à ce moment. Donc Dieu connaît l'information, mais il ne va pas vous révéler ça à ce moment parce que ce n'est pas encore le temps. Donc, ce n'est pas qu'il ne connaît pas. Non, ce n'est pas le temps. C'est des informations confidentielles. Et ça prend un certain nombre d'années qu'on relâche. Même ici, dans certains pays, vous allez voir, il y a certaines informations, en fait, qui ne sont pas disponibles au public. Donc, ce sont des informations qui sont cachées. Ce sont des informations qui sont gardées juste pour le gouvernement. Mais après un certain nombre d'années, c'est là qu'on relâche ça maintenant pour le public. Vous allez voir que vous avez cette communion avec le Seigneur. Il y a certaines choses qui sont disponibles, certaines choses qui ne sont pas disponibles. Souvent, il va vous donner des informations qui sont pour vous, mais que vous n'allez pas, il va vous dire de ne pas relâcher à d'autres personnes parce que cette personne n'est pas encore prête à recevoir ces informations. Donc, tout ça fait partie de cette communion avec le Seigneur. D'ailleurs, beaucoup de temps, peut-être dans certaines situations où une information peut nous sauver beaucoup de temps. On peut passer du temps à chercher, à cogner, à souffrir. Et pourtant, si cette information était là, ça devait rendre notre vie facile. On va prendre l'exemple de Jacob. On ne peut pas parler de lui dernièrement, sa situation. Donc, quand Joseph a été levé en Égypte et en Israël, ou à Canaan, où Jacob et ses enfants étaient, il y a une grande famine. Donc, en fait, ce qui s'est passé, donc Jacob a envoyé ses enfants de partir en Égypte pour chercher de la nourriture, pour prendre du blé, pour acheter du blé. Et il a gardé Benjamin avec lui. Je vais rappeler Joseph. Jacob pensait que Joseph était en fait mort. Pourtant, il était devenu, il régnait sur l'Égypte. Après, le pharaon, c'était lui. Donc, il est parti, ils sont partis en Égypte. Joseph les a reconnus, ses frères. Il a traité sévèrement ses frères. Parce qu'il a dit à ses frères, en fait, que c'était des espions, il les a mis en prison. Il a dit à ses frères que si vous n'apportez pas votre petit frère, ils vont garder un de ses frères. Donc, un de ses frères sont restés pendant que le reste sont rentrés à Canaan avec du blé. Mais la condition, c'était qu'ils devaient revenir, ils devaient apporter Benjamin. Et quand ils ont passé la nouvelle à Jacob, mais Jacob était dans tous ses états, il dit, mais quoi, Benjamin? Mais non, parce qu'ils ont pris Joseph. Ils ne voulaient pas que ses frères partent encore avec Benjamin parce qu'ils avaient perdu Joseph quand ses frères étaient partis avec lui. Donc, il était vraiment troublé. Et même plus tard qu'elle a laissé ses frères partir avec Benjamin, il a dit en fait que si Benjamin ne revient pas, qu'il va juste partir. Parce qu'il aura tellement, il aura une telle grande douleur. Donc ici, en fait, il y avait une vérité. C'était que Joseph, en fait, était en vie. Joseph vivait. Mais Jacob n'avait pas cette information. Donc, il est passé dans ce temps d'inquiétude pendant toutes ces années. Toutes ces années, sans savoir qu'en fait, son fils vit toujours et son fils règne toujours. Donc, il n'avait pas cette connexion avec le Seigneur. Il ne marchait pas, en fait, dans le prophétique. Il n'a pas reçu le Seigneur qu'en fait, maintenant ton fils a été élevé en Égypte, vas-y. Mais il y a un temps qu'il a souffert. Il y a un temps que son cœur est devenu tellement sensible qu'il pensait même à mourir parce qu'il n'a pas reçu cette information. Pourtant Jacob parlait avec Dieu. Ici, et là, pas tout le temps, c'était un peu rare, peut-être des années, un peu plusieurs années. Parce que si vous allez dans Genèse 46, ça dit ceci. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Waouh! Et ceci arrive en fait quand? Ça, c'est quand Joseph avait dit à ses frères que c'est lui Joseph. Donc, il s'était révélé à Joseph. Et ses frères sont partis dire à Jacob, en fait, que Joseph vit. C'est là qu'il a décidé de partir en Égypte. Mais si vous vous rendez compte, c'est quand il a fait des sacrifices, c'est qu'il a érigé un autel, qu'il a pu écouter la voix de Dieu, qu'il a pu avoir cette direction de Dieu. Mais s'il avait cette communion, s'il marchait avec le Seigneur, s'il avait en fait dans ses habitudes de chercher la face de Dieu, il n'aurait pas dû attendre tout ce temps. Il n'aurait pas dû vivre dans cette souffrance. Donc le fait qu'on se rapproche de Dieu peut nous éliminer des temps de souffrance qu'on n'était pas censé aller. Mais parce qu'on n'a pas cette relation, on y va quand même. Donc il y a plusieurs moyens d'arriver à accomplir un objectif. Il y a plusieurs chemins. Il y a des chemins qui sont difficiles et des chemins qui sont faciles. Mais quand vous avez, oui bien-aimé, vous voyez comme un labyrinthe. Donc vous êtes à la porte, vous êtes arrivé à, vous êtes sorti de labyrinthe, et vous ne connaissez pas comment, quelle est la route. Donc vous allez beaucoup tâtonner et ça va vous prendre tellement de temps pour arriver à la sortie. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes à la porte. Vous avez quelqu'un qui est au-dessus, qui voit tout le labyrinthe. Et vous avez une relation avec cette personne. Mais cette personne va vous diriger. Il va vous montrer parce qu'il voit toutes les routes. Et vous allez arriver à l'exit plus rapidement par rapport à une personne qui n'a pas eu cette relation avec cette personne qui voyait tout le labyrinthe. Donc, vous pouvez avoir le même objectif, vous pouvez avoir le même goal, mais une personne en fait, qui dépend au Seigneur, qui est une relation avec le Seigneur, qui est conduite par l'Esprit de Dieu, qui marche selon l'Esprit de Dieu, qui marche dans le prophétique, sa relation avec le Seigneur va lui permettre d'arriver à sa destination plus rapidement. Par rapport à une personne qui tâtonne ou une personne qui cherche le Seigneur une fois par mois. Donc, ne faisons pas comme Jacob dans ce cas précis. Ayons une relation constante, cultivons notre relation avec le Seigneur tous les jours. On va prendre maintenant un exemple. L'exemple parfait. Ça, c'est Jésus-Christ. Il marchait dans le prophétique, tout le temps. Jean dit en fait que le nombre de miracles qu'il a fait, qu'on ne peut même pas écrire, que si on écrit, on ne peut même pas continuer cela. Donc, quand il se lève le matin, il a quelque chose en tête. Et voici ce qu'il a en tête. On va lire Jean 5. Jean 5, verset 17. Juste pour donner un contexte, il y a une personne qui était à la piscine de Bethesda. Et Jésus-Christ est parti voir cette personne et il a guéri cette personne. Il a dit à la personne de prendre son matelas et de partir. Mais c'était au jour du sabbat. Et au jour du sabbat, c'est interdit de travailler, c'est interdit de porter son matelas. Ce sont les lois que, en fait, ça ne vient pas de la loi, mais ce sont les chefs religieux qui voulaient juste se rassurer qu'on ne brisait pas la loi. Ils ont mis d'autres lois autour de cela. Et donc, Jésus-Christ a fait un miracle le sabbat. Et maintenant, ils interrogent cette personne de savoir qui t'a demandé de porter ton matelas. Il a dit que c'est Jésus-Christ. Ils interrogent maintenant Jésus-Christ pour savoir, mais c'est le sabbat. Pourquoi tu as demandé à personne de porter son matelas? Voici ce que Jésus lui répondit. Verset 17. Mais Jésus lui répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Waouh! Donc, il dit que son Père, que Dieu, son Père, agit jusqu'à présent, que lui aussi, il agit. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, comment il sait que son Père agissait? Comment il sait que son Père était en train de faire quelque chose? Peut-être qu'il va nous le dire, mais en fait, c'est parce qu'il avait cette relation avec le Seigneur. Parce qu'il cherchait la face de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui était en lui, il avait cette communion excellente. Il était un, en fait, avec le Père. Donc, ce qui voit son Père fait dans les cieux, ce que son Père est en train de planifier, ce que son Père est en train de dessiner, ce qu'il a prévu pour la journée, quand Jésus-Christ se lève, il a ça devant lui, et c'est ça qu'il va accomplir. Mon Père agit, donc en ce moment, son Père, Dieu, était en train de préparer, d'agir, de faire quelque chose pour cet homme. Et comme Dieu était en train d'agir, qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi, j'agis. Donc, il copie ce que son Père est en train de faire. La question qu'on peut se poser, bien-aimé, c'est qu'est-ce que le Père est en train de faire dans votre vie maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire demain quand vous allez au travail? Qu'est-ce qu'il sera en train de faire? Qu'est-ce qu'il sera en train de faire quand vous serez en train de marcher ou de traverser la route? Qu'est-ce qu'il sera en train de faire quand vous serez en train de causer avec votre coworker, avec votre ami du travail? Qu'est-ce qu'il sera en train de faire quand vous serez assis dans le bus? Donc, est-ce que nous avons les yeux fixés dans les cieux, fixé sur le Père? Est-ce que nous cherchons à voir en fait ce que le Père est en train de faire? Parce que pour que nous fassions aussi ce que le Père fait, il faut qu'on copie ce qu'il est en train de faire. Il faut qu'on sache ce qu'il est en train de faire. Et comment on sait cela? C'est à travers la communion. C'est en voyant ce qu'il est en train de faire. C'est par révélation. Ça peut être par des rêves, par des visions, par des paroles relâchées ou bien même par la parole de Dieu. Donc, est-ce que quand on se lève le matin, on a en tête, ok, voici ce que mon Père fait aujourd'hui. Ou bien, est-ce qu'on demande au Seigneur, Père, quel est ton plan pour cette journée? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire qui est sur mon chemin, comme ça je peux le faire? Est-ce que nous demandons ça au Seigneur? Parce que c'est ce qu'on doit demander au Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, Jésus-Christ s'intéressait aux choses de Dieu. Il s'intéressait au travail de son Père, pas aux choses de la terre. C'est pour ça qu'il a sa prière, il a dit, notre Père qui est que ton nom sanctifie, que ton règne vienne. Donc, il voulait manifester le règne de Dieu partout où il va. Ça commence en voyant ce que le Père veut faire. Que ta volonté qui est dans les cieux soit sur la terre. Donc, quelle est la volonté de Dieu dans notre vie demain matin, demain après-midi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Bien-aimé, cherchons ce que le Père est en train de faire. Parce qu'il est en train de faire des choses. Il est en train de planifier des choses. Il est en train de... Le Saint-Esprit est en train de modifier, de changer le schedule des gens, de toucher les gens, de changer les... Il est en train de faire des choses pour avoir des rencontres divines. Mais on doit avoir cette communion pour qu'on sache ce qu'il est en train de faire pour que nous aussi, nous le fassions. Donc c'est très important. Il dit au verset 19, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » En fait, il dit que c'est pas lui, ça ne vient pas de lui, ce ne sont pas les œuvres de la chair. Ça ne vient pas juste d'une idée qu'il a eue à la télévision, qu'il est parti appliquer. Donc, il est en train de dire que ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, les choses qu'il fait, ce n'est pas de son intelligence. Waouh! Mais c'est de Dieu. Donc, ça nous demande une connexion vraiment profonde avec le Seigneur. Combien de fois, bien-aimé, on était en train de faire certaines choses, pourtant le Père nous a demandé de faire autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que le Père ne va pas vous forcer. Il ne va pas vous forcer. Il ne va pas vous secouer pour que vous fassiez ces choses. Il est un gentleman. Ça serait un peu doux, mais c'est à vous de capter. Oh, le Père est en train, il veut faire quelque chose ici, de se positionner. Parce que nous vivons dans une culture, en fait, on doit d'abord gronder une fois, deux fois, avant qu'on fasse des choses. On pense que c'est comme ça que le Père fonctionne, que le Père doit d'abord gronder, mais ce n'est pas le cas. Le Père nous a donné, en fait, ce qu'on appelle le free will. On fait ce qu'on veut faire. Il ne nous commande pas. De la manière dont tu nous conduis, c'est doucement, c'est simple, c'est-à-dire, et quand on se rapproche de lui, même cette communication, ça sera doucement, il faut qu'on capte un peu, en fait, c'est qui veut faire. Dans les grandements, c'est le royaume de Dieu, c'est plus ça. Ah, c'est quand peut-être que vous êtes déjà en train, vous êtes déjà loin, vous êtes tellement écarté de sa volonté qui doit vous gronder. Mais souvent, ce sont des directives qui sont vraiment douces. Il ne va pas vous forcer. Mais on sait qu'il voulait faire quelque chose. Mais est-ce qu'on était disposé pour accomplir sa volonté? C'est pour ça que la Bible dit que le corps de flèche, que c'est faible, que l'esprit est prédisposé, l'esprit est disposé. Donc c'est pour ça que Paul dit qu'il met sa chair, il discipline sa chair pour que l'esprit peut facilement opérer. Donc le Saint-Esprit peut facilement opérer en lui. Donc quand son esprit capte quelque chose de Dieu, rapidement il oublie, rapidement il obéit parce que la chair n'est pas là pour à venir au milieu. Mais quand la chair est tellement, prend tellement de poids, prend tellement de considération. Donc, si par chance mon esprit capture quelque chose pour exécuter encore, ah, ça c'est le travail. Donc, ici il y a deux problèmes. Il y a d'abord écouter ce que Dieu me dit. Et même quand vous écoutez ce qu'il va dire, maintenant pour faire encore, c'est difficile. Mais Jésus-Christ, il dit en fait, qu'il ne peut que en fait ce qu'il fait. Il ne fait pas ça de lui-même. Il est intéressé à ce que le Père est en train de faire. Donc, bien-aimés, soyons disposés à faire, à capter ce que le Père est en train de faire et à le faire. Vous êtes en train de dormir. Vous dormez, vous êtes en train de faire un bon rêve. Et le Saint-Esprit, doucement, vous rappelle, prie pour ceci. Vous tournez, vous mettez la couverture bien si vous dormez encore. Et c'est le matin qu'il appelait, oh, j'ai raté ça. Pourtant, le Saint-Esprit était tout en train de nous conduire. La chair était tellement là. Donc, on doit discipliner notre corps. Mais que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous fasse grâce, nous fortifie et nous conduit vraiment à ce niveau où Jésus-Christ était, où ce qu'il faisait, c'est ce que le Père était en train de faire. Il dit ceci. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Ici il dit le Père aime le Fils car il lui montre tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, tout. Ici il a dit tout. Pourquoi à cause de cet amour? Et aussi à cause de cette obéissance. Parce qu'il y a cet amour est mutuel. On a parlé simple la dernière fois. À cause de cet amour, il y a cette révélation. Mais bien aimé, le Père aussi nous aime. Le Père aussi nous aime. La Bible dit en fait qu'il se réjouissait quand il vous criait. Donc qu'il est en train de vous façonner, qu'il est en train de mettre le nez, les yeux, la tête. Il se réjouissait de cela. Les plans qu'il était en train d'écrire pour vous, les livres de la vie, il se réjouissait par rapport à cela. Donc le Père nous aime. Cet amour en fait qu'il a pour Jésus-Christ, cet amour aussi qu'il a pour nous. La différence, c'est en fait la réponse. C'est la réponse à cet amour. En fait, pour prouver comment il nous aime, elle veut dire qu'il a lui-même, il a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir pour nous. Donc c'était pour démontrer à tel point son amour était grand. Parce que lui-même, le Dieu, le roi des rois, il est hors du temps, hors de l'espace, il est hors de cela. Il n'avait besoin de rien, il est Dieu. Mais il a décidé d'entrer dans le temps. De dépendre des hommes. Waouh! Dieu qui dépend des hommes. Quelle humiliation. Non, pas l'humiliation, mais il est humble. Il est tellement humble. Dieu, le créateur, qui vient dans sa création et qui dépend de sa création. Waouh! Ça, c'est l'amour. Donc, Marie devait changer les couches. C'est-à-dire, Marie devait l'arrêter la même pour partir à l'école. Marie, il devait dépendre. Dieu dépendait des hommes. Et quand le Père voyait cela, il pensait à nous, que c'est pour eux, c'est pour eux, c'est pour nous, c'est son amour. Vous imaginez? Un monde qui est tellement... La Bible dit qu'il était dans les ténèbres, il y avait les ténèbres sur la terre, il n'y avait pas de lumière. La lumière, c'était Jésus-Christ. Une lumière jaillit, c'était Jésus-Christ. Et quand on parle de crucifié, quelqu'un était crucifié, a su cette croix. Sans habit, Dieu, sur la croix, sans habit, crucifié par sa création. La création n'a même pas reconnu le Créateur. Jean dit que la création n'a pas reconnu le Créateur. Quand il prenait ses coups, c'était pour nous, c'était pour révéler son amour pour nous. Même sur la croix, bien-aimé, où il était crucifié, il dit au Père de le pardonner. Waouh! Il dit que le Père nous pardonne. Sur la croix. Ah, quel amour. Il a dit, tout est accompli. Donc Dieu aussi nous aime. C'est pour ça que Paul a dit, mais en fait, qu'elle a compris le mystère de la croix, qu'elle a compris ce que Jésus-Christ a dit, il me dit, mais qui va nous séparer? C'est qui? Qui va nous séparer? L'amour de Dieu. Il a compris cela, qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Rien du tout. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais il dit, malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, Dieu nous aime, parce que Dieu aime Jésus-Christ, il révèle toutes choses à Jésus-Christ. Dieu nous aime aussi, et Dieu veut aussi nous révéler ces choses. Il veut révéler ces choses à nous qui faisons maintenant partie de l'Église. La Bible dit en fait que ce sont les choses qu'il a cachées, que le roi n'a point vu, que les gens n'ont point vu, le roi n'a point entendu, le mystère caché. Il a caché ça avant la création du monde pour révéler à qui? À ceux qu'il aime, à nous. Mystère de Christ. Il y a tellement, tellement de choses que Dieu veut nous dire. Mais est-ce que nous sommes positionnés en fait pour écouter ces choses? Jésus-Christ l'était. Donc ça, c'est notre exemple. On doit être comme Jésus-Christ. Que tout ce qu'on fait, ce qu'on fait, on veut capter ce que le Père est en train de faire. Verset 20, continuant. Et il nous montrera les œuvres, et il nous montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc ici, vous parlez, il parle de montrer. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de montrer, c'est aussi quoi? C'est révélation. Donc, ça souligne le fait que Jésus-Christ se positionne pour voir ce qu'il a dit en haut, pour voir ce que le Père est en train de faire. Donc, quand il lui montre les grandes choses, il veut aussi que Jésus-Christ fasse ces grandes choses. Donc, bien-aimé, il veut vous encourager à marcher dans le prophétique, donc, c'est-à-dire à écouter, à vous positionner, disposer votre cœur à demander au Père ce qu'il veut faire, ce qu'il est en train de faire dans ce temps, ce qu'il veut faire dans votre journée. Captez cela. Cherchez et captez. Souvent, vous allez cogner. Souvent, vous allez chercher. Souvent, vous allez demander, il va vous donner rapidement. Mais de voir cela, et maintenant, entrer dans cela, en manifestant cela dans votre vie. Ce n'est pas facile. Parce qu'il y aura la chair. Ton Seigneur nous demande à avoir un esprit qui est vraiment disposé. Ton Seigneur nous demande à mettre la priorité sur notre esprit. Ton Seigneur nous demande de bien nourrir notre esprit. Ça nous demande d'avoir une vision, d'avoir une mentalité qui doit être focalisée dans le royaume de Dieu. Une mentalité qui est renouvelée, qui n'est plus focalisée sur les choses de la terre, mais qui est focalisée sur les choses des cieux. Parce que si votre mentalité est focalisée sur les choses de la terre, dès qu'on va parler des choses divines, vous serez discret, ça ne va pas vous intéresser. Donc, ça doit être focalisé sur les choses des cieux. Une mentalité qui est renouvelée par la parole. Donc, on doit fortifier notre esprit tout le temps, que ce soit en lisant la parole de Dieu, que ce soit en priant en langue. Jésus dit, en fait, quand vous priez en langue, votre esprit, c'est comme si vous partez à la gym, donc c'est en train de se former, c'est en train de devenir fort. Et d'être sensible, sensible au vent de l'esprit, sensible à l'esprit, sur ce qu'il est en train de faire. Et de mettre, traiter le corps durement, discipline sur le corps. À travers cela, on voit que le Saint-Esprit, parce que maintenant, quand vous êtes disposé à faire cela, c'est que c'est parce que, vous savez bien, cette parabole, quand vous accomplissez une mission, quand vous êtes fidèle avec peu, le Seigneur va augmenter. Ce qui fait que si vous avez des directives, vous l'accomplissez, vous allez voir, le Seigneur va commencer à plus vous faire confiance, avec plus de directives, à vous montrer plus de choses. Vous allez plus accomplir. Vous allez manifester le royaume de Dieu. Parce que ce qu'on veut, qu'on rencontre notre Seigneur, c'est qu'il dit bon et fidèle serviteur. On est bon et fidèle en fait parce que on accomplit les œuvres du Père. Donc ayons les yeux fixés sur le Seigneur, cherchons à accomplir ses œuvres et marchons dans le prophétique. Cela va nous permettre d'éviter beaucoup de retard. Je vous donne ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen.